Nous allons pouvoir reprendre notre réflexion sur le thème de sagesse humaine, loi naturelle et loi révélée. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Abdesalem Swiki. C'est une joie à plus d'un titre, d'abord parce que c'est la première fois que nous accueillons pour un colloque du Studium un intervenant musulman. C'est une joie aussi parce que nous avions un ami commun avec Monsieur Swiki, le père Étienne Renaud. C'est lui qui nous a mis en contact, un homme d'une très grande qualité humaine et spirituelle. Et je pense que il a été rappelé à Dieu l'an dernier, mais je pense qu'il se réjouit de cette rencontre. Monsieur Swiki est imam. Il intervient pour deux communautés à Aix et aussi à Massy-Palaiseau. Il est aussi professeur de mathématiques. On a un écho dans l'assemblée. Et puis il s'occupe d'une association qui s'appelle La Plume de la Vie, qui accompagne des jeunes en difficulté scolaire, qui est aussi impliqué dans le dialogue interculturel. Il est impliqué aussi dans le dialogue interreligieux. Alors, nous le remercions de nous faire profiter de cette riche expérience et de sa recherche dans le domaine de la théologie et du droit musulman.
Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. On m'a demandé d'intervenir sur la thématique de la loi naturelle. Je suis audible, ça va? Laquelle notion, en fait, je ne la retrouve pas explicitement dans mes textes, ni dans la Sainte Écriture coranique, ni dans la Sunna, c'est-à-dire la parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais c'est une notion, à mon sens, qui est à recouper, à croiser avec un certain nombre de vocables, de notions telles que al-fitra, entendu par là la nature primordiale de l'homme, l'excellence originale de l'homme. Cette thématique a été traitée par les musulmans à travers les siècles, mais très récemment par une Française, Geneviève Gobillot. Elle a l'habitude de co-rédiger des bouquins avec un grand monsieur aussi de la curie romaine, Michel Cuypers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Michel Cuypers, c'est quelqu'un aussi qui a pas mal écrit sur l'exégèse coranique. Un curé, un prêtre qui écrit sur l'exégèse, mais d'une manière très à l'endroit, très à propos. Donc, al-fitra, donc la nature primordiale, excellente, cette rectitude, cette droiture initiale, conformément à laquelle Dieu a créé l'homme. L'homme, dans la parole du prophète, paix et salut sur lui, nous a dit que Dieu, Allah, a créé Adam à son image, entendu par image, l'image éthico-morale, parce qu'en islam, on n'a pas une représentation de Dieu. Dieu est au-dessus et au-delà et plus grand que tout ce qui nous traverse nos petits esprits d'être humain. On peut aussi la recouper avec la notion de Sibrat Allah. Je vais vous réciter les versets. Sibrat Allah, qui veut dire la couleur de Dieu, donc la couleur préférée de Dieu, Sibrat Allah, elle peut être recoupée aussi avec la Rabbaniya, c'est la sainteté. Et aussi Al-Wilaya, qui peut vouloir dire aussi la même chose là, sainteté. Il y a un certain nombre de passages coraniques dans lesquels Dieu nous a entretenus sur cette notion. Je commence par celui-là de la septième sourate, juste pour les non-avertis. En islam, on a une seule vulgate, un seul Coran, on n'en a pas plusieurs, donc c'est facile à se retrouver, constitué de 114 sourates, chapitres, appelés sourates, 114, et les chapitres sont plus ou moins lents. Ça peut s'étaler sur deux lignes, comme ça peut s'étaler sur une trentaine, quarantaine de pages. Voilà, 140 chapitres. Là, j'en suis au septième chapitre, verset 173. Si vous voulez, si cela ne vous gêne pas, je le cite en langue arabe, juste pour l'avoir en mémoire et lui appliquer une traduction. Sinon, je peux vous faire l'économie de ça. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Je m'arrête là, mais on aura à revenir sur la suite de ce paragraphe. Et lorsque ton Seigneur tira ou prit des reins d'Adam, sa postérité, sa progéniture, et les fit témoigner sur eux-mêmes. C'est un acte qui s'est fait dans un moment pré-éternel, avant la création de l'homme. Et les fit témoigner sur eux-mêmes, la descendance d'Adam. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et ils répondirent : Si, tu es notre Seigneur. Donc, le fait d'être acquis à la seigneurité de Dieu est quelque chose d'inné dans le Coran. Dieu, avant même d'expliciter ses qualités, ses perfections dans la Sainte Écriture coranique et avant le Coran, les livres antérieurs, l'Évangile et la Torah, Dieu avant de révéler ses noms, ses qualités, ses perfections, ses desseins augustes dans une révélation, il les a au préalable gravés, imprimés dans le tréfort intérieur de tout un chacun. Nous sommes tous également équipés en la matière. Tout être humain, lorsqu'il naît selon la conception coranique, est porteur en lui ce souffle de Dieu, cette marque déposée divine qui lui rappelle la seigneurité de Dieu. Et Dieu justifie ses injonctions, ses appels, ses invitations à rejoindre son droit chemin par le fait que sa loi est conforme à la nature humaine, à cette nature primordiale. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ فِطْرَةً donc on revient, فِطْرَةً c'est la nature, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Établis-toi conformément à la vraie religion révélée par Dieu, laquelle religion est conforme à la nature primordiale de l'homme. Donc, c'est comme si Dieu considère cette religion comme une vêture sur mesure de la nature humaine qui répond effectivement, réellement, proportionnellement aux vrais besoins de Dieu. Comment pourrait-il en être autrement alors que l'auteur de l'homme est le même auteur de la révélation. Donc l'auteur de l'homme et de la révélation est un et le même, et donc il ne saurait y avoir d'incompatibilité entre la création et la révélation. Ala lahul khalq wal amr, Dieu dit dans le Coran, n'est-ce pas à lui la création et la révélation, justement pour établir cette adéquation, cette conformité cette proportionnalité entre l'homme créé, ses vrais besoins tels que Dieu l'a conçu, et la révélation de Dieu. Dieu nous dit, par ailleurs aussi, je vais essayer de décourter, sous réserve de revenir sur le reste des versets dans la discussion, s'il y a lieu d'en débattre. Ô vous, fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous une vêture pour protéger votre intimité et pour vous faire beau. Donc la vêture du corps, pour cacher sa nudité, ses parties intimes, et aussi la dimension esthétique pour se faire beau. وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et la vêture du cœur, qui est la crainte révérentielle de Dieu. Taqwa, c'est la crainte révérentielle de Dieu. Dans cette perspective, l'homme n'est pas seul à adhérer à Dieu, à porter en lui ce souffle de Dieu, cette célébration innée de la gloire et de la majesté de Dieu. Le Coran nous dit, nous parle des autres éléments créaturels tels que les cieux, la terre, les montagnes et tout ce que Dieu a créé. Il nous dit يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Les cieux, les sept cieux, et autant de terre, et tout ce qu'ils contiennent, célèbrent la gloire de Dieu, et il n'est de créature qui ne glorifie Dieu et qui ne louange Dieu, sauf que vous n'accédez pas à leur mode de communication. Sauf que vous ne comprenez pas leur manière à eux, ces éléments créaturels, de célébrer, de glorifier Dieu, exalté soit-il. Avant que Dieu institue l'homme comme lieutenant, comme vicaire, avant lui, il a proposé ce dépôt, Dieu l'appelle comme dépôt, c'est-à-dire la liberté de vouloir, de faire des choix. Il l'a proposé aux autres créatures, c'est dans la sourate Les Coalisés, sourate numéro 33, verset 72. إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Nous avons exposé ce dépôt, cette liberté de choisir, ce libre arbitre, aux cieux, à la terre, en montagne, et tous ont décliné l'offre. Ils ont choisi que Dieu choisisse pour eux, sauf l'homme qui s'en est chargé. Et il cite défauts qui sont en fait les qualités qui l'ont prédisposé à prendre en charge cette liberté. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Et il fut injuste et ignorant. Et ces deux défauts, si vous voulez, dans un autre paragraphe, à le scruter de très près, constituent le leitmotiv, le bien fondé du choix de l'homme. C'est parce que l'homme n'a pas reçu toute l'information, toute la connaissance, mais il a eu de Dieu cette capacité de tout connaître, mais progressivement, pas dans une seule génération, mais sur le long terme, disait notre ami conférencier ce matin, que je reprends sa formule qui m'a beaucoup plu, aussi longtemps qu'il y a des hommes, le mystère de l'homme nous reste voilé. Voilà. Et donc, toute la connaissance viendra avec le dernier homme. Et aussi longtemps que l'espèce humaine constitue à exister, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. L'homme n'aura jamais la complétude du savoir. Et c'est justement ceci c'est ceci qui l'a prédisposé à être, entre autres, le lieutenant, le vicaire de Dieu, parce que les anges, Dieu inscrit en eux les informations qui les prédisposent à prendre en charge les missions qui sont les leurs. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent point à Dieu dans tout ce qu'il leur ordonne et ils obtempèrent à tous les décrets de Dieu. C'est comme il inscrit dans un BIOS, comme on dit en informatique, dans leur système, des informations et eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont autre choix que d'obtempérer, que d'obéir, que d'accomplir les missions qui sont les leurs, contrairement à l'homme qui est responsable de cette acquisition, de cette accumulation de ses savoirs et qui dit acquisition progressive du savoir, dit aussi ignorance, parce qu'il ne connaît pas et donc il se méprend sur ses choix, sur ses décisions et ce qui l'expose à des erreurs de calcul, des décisions erronées, génératrices de conflits, de corruption, d'effusion de sang. Et c'est justement la plainte des anges contre Dieu informa. Là, on est dans la deuxième sourate, la génisse ou la vache, si vous voulez, depuis le verset 29, si je ne m'abuse. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Quand ton Seigneur informa les anges qu'il allait instituer un vicaire, un lieutenant, c'est-à-dire Adam, émir, si vous voulez, pour pas dire s'insurger, parce qu'un ange ne s'insurge pas, ne se rebelle pas, ils émettent leur réserve. Comment vas-tu instituer quelqu'un qui va être à l'origine d'une grande corruption, qui va corrompre sur terre, par rapport à l'incomplétude de ses savoirs, et effuser, verser le sang, et Dieu de leur dire, je sais ce dont vous n'avez aucune information. Et à un certain moment, je vais vous faire l'économie, vous pouvez revisiter ce paragraphe dans cette sourate, juste pour établir ce parallèle entre l'homme et les anges. Quand Dieu démontra aux anges que l'homme a cette capacité de tout connaître, mais eux, ils n'ont de savoir que celui que Dieu leur a insufflé, a déposé dans leurs êtres, reconnurent la majesté de Dieu et leur faute d'évaluation. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ils dirent, exalté sois-tu, glorifié sois-tu, nous n'avons de savoir que celui que tu as imprimé en nous. Et pas davantage. Donc, ce qui établit ce parallèle, justement, cette distinction, cette différence entre les anges et l'homme. Vous voyez que l'homme, avec les autres créatures, il n'est pas étranger dans cet univers. Il considère dans le Coran que tous les éléments créaturels sont des co-religionnaires, sont des adorateurs au même titre que lui, de Dieu exalté soit-il. Après, bien sûr, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a préparé ce réceptacle debout, après l'avoir perfectionné, ramené à la perfection, Dieu nous dit, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. Donc cette boue, bien préparée avec les mains de Dieu, quand je l'aurai ramenée à la perfection de manière à mériter de recevoir ce joyau divin, donc ce souffle de Dieu, cet esprit de Dieu, فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ, prosternez-vous, s'adressant aux anges, au chef-d'œuvre de Dieu, à la créature de Dieu, se prosterner à Dieu devant Adam. Voilà. Et c'est depuis la création de cette chair que l'homme s'est scindé en deux dimensions. L'homme moral, l'homme lumineux, l'homme spirituel, très rapidement, et l'homme passionnel. Et lorsqu'on parle de nature de l'homme, on renvoie aux deux aspects de l'être humain. Voilà. Et il s'agit justement, dans le Coran, de faire en sorte que ce réceptacle de chair qui a été conçu, préparé, prédisposé pour recevoir le souffle de Dieu, ne transgresse pas, ne dépasse pas les limites qui sont les siens. Donc, il a le droit et le devoir de se conserver pour justement continuer à accueillir cet esprit de Dieu, ce souffle de Dieu, et à la seule condition de se soumettre, donc dans tout le Coran, on va voir dans d'autres textes, il ne s'agit pas de malmener, maltraiter le corps, de le sous-estimer, loin s'en faut, mais de l'inscrire dans les bornes, dans les limites qui sont les siennes, et qu'il ne dépasse pas sa fonction d'abriter, d'accueillir cet esprit de Dieu, ce souffle de Dieu. D'où le fait de cheminer vers Dieu de manière à assujettir, à soumettre l'homme passionnel à l'homme spirituel. C'est ça l'idée fondamentale qui se dégage dans l'ensemble des versets coraniques et des paroles du prophète Mohammed. Après, bien sûr, dans ce négoce permanent entre ce souffle de Dieu, cette fitra, donc cette excellence, cette rectitude initiale, originale et originale, et les besoins du corps, avec tout l'empire des instincts et de la passion, c'est dans la gestion de ce négoce que se joue la spiritualité, le cheminement du croyant vers Dieu. Dieu, par exemple, nous dit, à un certain moment, ce sont des flashs que je prends par-ci, par-là, il nous parle de Moïse, à son retour de son rendez-vous avec Dieu pendant 40 jours, il a reçu fraîchement les tables de la loi, et il a laissé derrière lui son frère Aaron, pour continuer à diriger le peuple juif conformément à la volonté de Dieu. Mais le Samaritain, à Saint-Mériou, a induit une partie des Juifs en erreur, en leur construisant le veau d'or et en les manipulant de manière à l'adorer en lieu et place de Dieu. À son retour, Moïse, et trouvant ce spectacle désolant, il se mit en colère et il jeta les tables fraîchement reçues de Dieu. Et Dieu, juste après, nous dit, parce que c'est l'élément qui m'intéresse, c'est pas l'histoire dans son entièreté, c'est ce point. Et Dieu dit, فَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. Et lorsque la colère se tue, c'est, donc Dieu nous dit que les instincts, la colère et autres, constituent un bruit, du brouhaha, du vacarme, si vous voulez, qui empêche d'écouter la conscience, cette fitra, la voix de Dieu en l'homme. Et il n'a pu écouter Dieu, Moïse, qu'une fois que sa colère se soit tue. Et Dieu attribue donc le verbe sekata, se taire, à cette colère. C'est comme si nos instincts vocifèrent et dans leur cri, dans leur anarchie, nous empêchent d'être à l'écoute de cette fitra, de cette conscience qui est la voix de Dieu à l'intérieur de l'homme. Et donc il s'agit pour le cheminant de faire taire, un tant soit peu, tous ses instincts pour permettre à l'oreille du cœur, à l'œil du cœur, de recevoir les lumières de Dieu. Et c'est justement ce qui fait que l'homme dévie plus ou moins de la compréhension de la loi révélée et de cette loi imprimée, parce que l'homme reçoit le message, le signal de Dieu, mais au contact de la personne passionnelle qu'il est, à la sortie, le signal est plus ou moins déformé. Moi, je vous donne cette image de l'informatique, de l'électronique, juste pour que l'information soit accessible. Notre ami, tout à l'heure, nous a demandé que les prédicateurs de la bonne parole doivent faire en sorte que leur message soit adapté et audible. Donc, je m'exécute. Voilà. Et donc, ce signal reçu, on est censé le restituer dans notre interprétation des textes et leur mise en pratique. Mais ceci est tributaire et dépendant de la manière dont l'homme gère justement cet être passionnel qui est en lui. Je reviens juste à mon premier paragraphe. Je vous ai promis de faire un retour sur ce paragraphe. Pour moi, c'est un paragraphe programme, en fait. Il contient, il nous donne cette peinture, cette description de l'homme. C'est comme une description. L'homme est entre deux moments, une mémoire et un projet avec deux grands obstacles. C'est le paragraphe coranique, je vais essayer de le réexpliquer. Donc, quand Dieu nous parle de cette fitra, de cette rectitude, cette excellence initiale, et il nous demande, dans notre cheminement, de rester toujours au plus près de cette excellence. C'est un besoin, normalement, sans que Dieu, on le verra avec un certain nombre d'écoles dans la pensée musulmane, qui font fi de la loi révélée pour se fier exclusivement à cette foi justement imprimée, gravée, innée en l'homme, les mu'tazilites, les précurseurs du rationalisme, ils ressemblent par un très grand nombre d'aspects aux platonistes de Cambridge du 17e siècle, eux qui ont vécu au 7e siècle, le premier siècle de l'islam. Voilà, l'homme est entre une mémoire, donc cette excellence, il a cette nostalgie de la perfection, et un projet de la restituer, parce que l'éducation, l'environnement, la mise de l'homme dans ce contexte lui fait perdre, a sur lui un effet corrosif, un effet d'érosion, de perdition d'un certain nombre d'éléments de cette excellence initiale, et donc il est censé, de par son cheminement, de recouvrer, de restituer les éléments de cette excellence, et dans son cheminement, il rencontre deux obstacles cités par ce verset, c'est l'inadvertance, l'indifférence, la nonchalance, et le poids des préjugés des anciens et des contemporains. Justement, Dieu, dans ce verset, je vais reciter, donc réciter, ça vient de citer et réciter, donc reciter le paragraphe, d'où justement on dit tilawa. Tilawa, c'est al-qira al-marratil wal-ukhra, c'est la lecture une fois après une fois. Tilawa. Et quand ton Seigneur prie des reins d'Adam, sa progéniture, sa postérité, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent, si, tu es notre Seigneur. Je continue, je n'ai pas continué tout à l'heure. Afin que vous ne disiez point le jour du jugement dernier que nous étions inadvertants, nonchalants, dans l'indifférence. Donc l'indifférence ne peut en aucun cas constituer un alibi, une circonstance atténuante devant Dieu, donc le premier obstacle pour nous dire, Dieu, que l'indifférence religieuse constitue justement un obstacle. Et dans notre cheminement, il faut travailler dans ce sens de garder en état de vigilance, d'éveil, notre foi et chercher les signes de Dieu, ses marques partout où elles sont. Donc l'indifférence et le poids des préjugés des anciens et des contemporains. « Aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim » Et pour pas aussi que vous disiez que nos parents ont été dans l'associationnisme, dans le paganisme, si vous voulez, et nous n'avons fait que reproduire leur conduite. Voilà. Aussi, donc le deuxième obstacle contre lequel il faut lutter justement pour recouvrer cette excellence initiale. Combien me reste dans mon ami pour que je... 2 minutes. Ah, 10 minutes. Ah, sinon, j'allais. 10 minutes, ça va. Après, donc, là, donc, j'étais dans, si vous voulez, le fitra, cette nature primordiale, elle a 3 volets, très rapidement. Donc, il y a le volet ontologique, le volet théologique, vérité, si vous voulez. Donc, le fait que l'homme soit acquis à Dieu, à la seigneurité de Dieu. Deuxième volet, c'est l'aspect bonté, bien, l'aspect moralo-éthique. Donc, l'homme est conçu, créé à l'image de Dieu, donc il est bon par nature, il n'est pas méchant par nature, c'est très important. Et lorsqu'il travaille cette bonté, il mérite d'être le critérium, la boussole par excellence à travers le prisme de laquelle on peut instituer des lois, promulguer des lois sans diverger avec l'intention de Dieu et la volonté juridique de Dieu, pour peu que l'homme justement reste au plus près de cette bonté primordiale. On a posé une fois la question au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est quoi le vice et c'est quoi la vertu? Donc on lui a demandé de donner les définitions du vice et de la vertu. Il répond, la vertu, il commence par la vertu, c'est la bonne conduite. Parce qu'une vertu transcendantale qui ne déborde pas sur nos semblables n'en est pas une. Donc l'indice allant duquel on reconnaît la vraie vertu, c'est le rayonnement, c'est cette charité qu'on dispense à nos semblables. Donc c'est la première définition, très succincte, très concrète. Et la deuxième, le vice, il dit, tout ce qui ne tourne pas rond dans ta fitra, dans ta conscience, tout ce que ta conscience rejette, premier élément de la définition du vice, et deux, et que tu ne veuilles pas l'afficher devant les autres. Donc, la deuxième partie de la définition. Donc, c'est comme s'il nous dit, je le dis très souvent aux fidèles des mosquées où je prêche, où j'officie, je dis le grand cheikh, le grand mufti, en fait, c'est ce cheikh qui est en nous-mêmes. Le mufti, c'est celui qui, dans les consultations, les avis juridiques. Donc le vrai savant, la vraie référence, c'est cette conscience. Et justement, le prophète, il dit, walaou aftak an-nas wa aftauk. Combien même tu auras reçu des uns des autres des solutions qui te facilitent, qui t'arrangent, reste à l'écoute de ta conscience. La priorité, donc oui, tu te concertes, tu écoutes, tu demandes l'avis, c'est très important, mais le fin mot de l'histoire revient à ce grand cheikh qui est en toi, cette conscience, et Dieu, justement, nous donne une image percutante en la matière. Il nous dit « Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhirahu » Mais au-dessus de l'homme, il y a une clairvoyance, une conscience, combien même il use et abuse de ses justifications, de ses alibis, parce que l'homme est ainsi fait, il a une capacité redoutable de transformer les réalités. Il est polémiqueur, querelleur, donc il a cette capacité de jouer avec les arguments. Zénon disait, je ne sais pas si vous connaissez les paradoxes de Zénon, si vous avez le temps et vous êtes un peu curieux à essayer de essayer, c'est important. Je ne peux pas faire un mètre avant de faire la moitié du mètre, et je ne peux faire la moitié si je ne fais pas la moitié de la moitié. Et comme toute moitié est divisible par deux, donc il y a une infinité de moitiés, donc je ne peux pas faire le mètre. Théoriquement, c'est impossible de faire le pas. Mais concrètement, je fais le pas et voilà, je fais mon... Voilà. Donc l'homme est producteur de paradoxes, il excelle en la matière. Mais subsistera toujours au-dessus de lui ce soleil, si vous voulez, cette boussole morale qui l'illumine, qui l'éclaire et qui le, comme disait tout à l'heure notre ami, qui l'accuse ou qui le défend. C'est magnifique, voilà. Donc, qui l'accuse ou qui le défend. Donc, qu'il a beau dire qu'un tel shayr, qu'une telle interprétation m'a été donnée, mais le grand shayr, la vraie boussole, le critérium, c'est ce qui et en lui-même ce que Dieu a bien gravé dans son fort intérieur. Donc je vais conclure, après peut-être la masse d'informations que j'ai, je pourrais les distiller dans le débat, si vous voulez. Donc in fine, si vous voulez, donc il y a la conclusion, comment faire justement pour rester au plus près de cette excellence primordiale, et donc au plus près de la loi révélée, et de faire en sorte que nos productions juridiques, nos dispositions légales soient au plus près de l'intention juridique de Dieu. Donc il y a ce ijtihad, donc cet effort qui doit se faire sur trois plans, donc sur la personne, donc qui doit rester dans le cheminement vers Dieu, dans les entraînements spirituels, dans la prière, la sollicitation de Dieu pour nous éclairer. Donc c'est très important. Donc essayer de faire dissiper cette rouille, ces enveloppes, ces cadenas qui nous scellent le cœur et qui nous empêchent de l'une de libérer nos lumières intérieures et de deux de recevoir les lumières de Dieu. Nourun ala nour, lumière sur lumière, lumière de la loi révélée, qui est censé se rajouter, converger, fusionner avec cette lumière, cette conscience innée. Mais faut-il justement avoir ce travail permanent, continu de polissage, de gommage, de manière à laisser se dévoiler cette excellence ancré et ensouché en nous. Deuxième travail doit être sur le contexte, parce que le croyant est censé partager ce bonheur avec les autres. Le bonheur, le salut est collectif ou ne l'est pas. Donc un salut égoïste n'en est pas un. Donc il faut être dans le témoignage, c'est très important. Donc ne pas laisser le contexte trop s'éloigner de cette rectitude, de cette droiture, de par notre engagement. Et un travail de renouveau sur les textes, de manière à se maintenir au plus près de l'intention de Dieu à travers sa loi révélée. C'est un grand chantier, ce troisième, mais les trois sont des chantiers, en fait. Si vous voulez, dans les débats, on peut en discuter. Merci pour votre attention. Thank you.